Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Il est 19h passé de 1 minute.
Et c'est le grand retour du Canu Info du mercredi.
Ah bah non, pas du tout, faut pas que je coupe les micros au moment où on parle.
Ah oui. Ah. Oh là 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 là,
va falloir se réchauffer. Ouais. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler ?
Alors, ce soir, on va lire à l'antenne un article de Rébellion. Oui, on met du temps à se réchauffer, à faire des choses par nous-mêmes sur les trottinettes et la raison pour laquelle les saloperies de trottinettes électriques que vous trouvez sur qui polluent vos trottoirs sont sabotées.
Ensuite, on parlera on aura une petite rubrique, faut que ça sache, avec des nouvelles de l'Italie en gros. Vous imaginez de quoi on va parler.
Et puis on s'intéressera un petit peu à l'Algérie, ma foi, il s'est passé des choses pendant l'été, en réalité il s'est passé des choses depuis le début de la semaine.
Et alors on commence tout de suite, pas par une bonne nouvelle. Oui, on commence par une nouvelle. Enfin, ça, c'était le début de l'après-midi. C'était plutôt une bonne nouvelle qui commençait, puisqu'il y a une nouvelle tentative d'ouverture de squat qui semblait être sur le point de réussir. En gros, c'était un squat à. Excusez-moi, je règle un peu des trucs. C'était un squat à Vouvray qui venait d'être occupé avec une. Il s'agissait d'une ancienne clinique. Bref, la nouvelle est gaiement annoncée sur Rébellion pour que l'ancienne clinique de l'Union à Vaux-en-Velin ne soit plus qu'une verrue vide, mais un bâtiment qui dépanne pour le plus longtemps possible des exilés. Eh bien, il semblerait, d'après le Progrès, qu'une opération de police soit en train d'évacuer le squat. Je dis il semblerait, c'est vraiment pour être très très prudent, puisque d'après les dernières mises à jour de l'article qu'on peut voir sur le Progrès, qui date de 18h47, il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de flics devant pour que ce soit juste une simple opération de contrôle. Voilà, en tout cas, ça faisait depuis samedi au moins que les occupants et occupantes étaient dans le squat. Ils ont décidé de rendre ça officiel aujourd'hui pour, vous savez, là c'est les fameuses histoires des 48 heures, c'est-à-dire qu'on reste discret 48 heures dans un lieu pour pas se faire rodave par les flics. Et après les 48 heures, ils sont censés être obligés de passer par une procédure, donc par la voie judiciaire, pour expulser. On sait par habitude qu'ils arrivent... quelques fois, la plupart du temps. Enfin bref, ça dépend des circonstances un peu inconnues à passer outre ce truc-là. Bref, là, il semblerait que ce soit le cas. Les flics ont déboulé vers 17h30, ont viré Manu Militari les quelques soutiens présents devant le squat, maintenu la presse à distance. Donc, à noter sur place la présence de nombreux quarts de CRS, de la grande échelle des pompiers, non pas qu'il y ait des risques d'incendie, mais pour éventuellement déloger celles et ceux qui auraient l'idée de se réfugier sur le toit pour ralentir l'opération de police. Et quand on voit les photos, et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. On voit plusieurs personnes qui attendent plutôt dans la bonne ambiance hein, pour l'instant les flics. L'ouverture de ce squat intervient au moment où l'amphizède risque l'expulsion depuis le 1er septembre. Alors pour celles et ceux qui sont en vacances depuis de nombreuses années presque, enfin depuis quelques temps en tout cas, l'amphizède est ouvert depuis, je dirais franchement, bien un an.
Ah. Oh oui, plus.
Bref, est situé à Villeurbanne et accueille en son sein pas mal de réfugiés, exilés, personnes en galère. Donc voilà, donc ce squat risque l'expulsion depuis le 1er septembre. S'ils expulsent effectivement ce nouveau squat, comme il, a priori c'est en train d'être fait, et qu'il décide également d'expulser l'amphicède, alors là la mairie jouera quand même clairement la carte de la tension, de la plus l'intention, hein, en espérant que soit que les personnes hébergées dans l'amphicède disparaissent dans la nature, ce qui semble peu probable, soit qu'il et elle se reportent sur d'autres squats existants, occasionnant une surcharge de ces squats, perturbant les fragiles organisations qui ont pu s'installer à l'intérieur. Bref, une rentrée assez rude pour nos amis squatteuses.
Canu Info. Du mercredi.
Et pour reprendre les bonnes habitudes, je vais vous lire tout bêtement en entier, intégralement, un article de Rebellion. Nos partenaires, nos soutiens, ceux qui font le boulot à notre place à certains moments. Cet article s'intitule « Pourquoi les trottinettes en free-floating sont sabotées ?» Alors vous voyez, les trottinettes dont je parle, c'est les machins qui sont un petit peu partout sur les trottoirs, les trottinettes électriques. Vous voyez, vous sortez un téléphone de votre poche, vous êtes auparavant abonné, vous avez un moyen de payer par téléphone, vous photographiez le fameux QR code qui est cette espèce de carré avec des sortes de dessins que votre téléphone comprend, et puis vous sautez sur la trottinette et vous roulez parfois très vite sur les pistes cyclables. Et voilà. Alors il y a plein de raisons, nous dit cet article, de lutter contre l'envahissement de nos vies par ce gadget, et des moyens très simples pour ce faire. Un feutre peut suffire. Et donc pourquoi saboter ces trottinettes ? Alors d'abord parce qu'elles marchandisent encore un peu plus la rue. Les voitures qui stationnent privatisent l'espace public, les trottinettes vont plus loin. Chaque bout de trottoir occupé par une trottinette est un espace marchand accaparé par la société qui la loue. Il y a un certain nombre de sociétés qui gèrent ces trottinettes. Ensuite, c'est aussi parce qu'il a largement été démontré que leur fabrication et leur faible durée de vie les rendent ultra polluantes. Il faut savoir que les trottinettes en question, entre autres parce qu'elles sont sabotées, durent très peu de temps, et c'est quand même un bon paquet de technologies qu'il y a dedans et un bon paquet de saloperies de produits divers et variés aussi.
Alors, on précise quand même que si jamais vous êtes écolo radical, c'est pas parce que vous sabotez cette trottinette qu'elle va finir quand même plus vite. Ça fait pas chuter la moyenne à fond, quoi.
Non,
c'est ça. Il faut pas vous empêcher de les saboter, quoi. C'est que dans tous les cas, leur confection globale est faite pour pas durer longtemps.
Oui, c'est sûr. C'est que de toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est prévu pour une durée moyenne de, je crois, 26 jours de vie ou quelque chose comme ça. Une autre raison de les bousiller, c'est parce que les personnes qui les rechargent la nuit sont exploitées sous le statut d'auto-entrepreneur. Alors là aussi, il y a un certain nombre d'études et d'articles, entre autres sur Bastamag, qui nous racontent la vie des personnes qui rechargent les batteries de ces machins-là. C'est pas exactement le genre de taf qu'on a envie de favoriser. Raison suivante, parce qu'elles ne remplacent pas la bagnole, elles remplacent la marche à pied. Alors là aussi, des enquêtes ont été faites. Auprès des utilisateurs de ces trottinettes, et massivement c'est des gens qui, s'il n'y avait pas eu de trottinette, auraient marché ou auraient pris un vélo mais en tout cas il y en a extrêmement peu qui se seraient déplacés en voiture. C'est un tout petit pourcentage, c'est je crois 8%, et donc en réalité c'est un moyen de transport extrêmement polluant, mais qui permet en plus de pas du tout utiliser ses muscles. C'est-à-dire qu'en plus, ça aide pas à ce que les gens se portent bien. Raison suivante, parce qu'elle participe à une transformation de la ville en smart city, cauchemardesque terrain de jeu pour hipsters contents d'être géolocalisés dans tous ces mouvements.
Et c'est bien ce point sur lequel on est quand même le plus
Alors moi je sais pas, c'est que
toi la forme physique ça te parle.
Moi c'est ce qui me parle, finalement ça entre autres, mais aussi c'est que effectivement l'histoire des gens qui bossent pour ça de manière dégueulasse, c'est vrai.
Non, c'est vrai, je disais plus ça par rapport à la forme physique, disons les gens marchent
d'accord. Et puis aussi parce que les déplacements urbains ne peuvent pas être gérés par une meute de sociétés privées domiciliées aux îles Caïmans. Et puis encore parce que les transports en commun gratuits, des deux roues non électriques gratuits en self-service, c'est possible. Etc, etc, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles saboter ces saloperies. Et il y en a encore une qui n'est pas dans l'article, mais qui est un peu évidente, c'est que des gens qui se baladent par exemple en fauteuil roulant, ou tout bêtement qui ont des poussettes pour bébé, les trottoirs sont énormément moins praticables depuis l'apparition de ces machins-là. Et donc, nous dit l'article, le moyen le plus simple, c'est un coup de feutre. Alors, attention, un feutre qui tient un peu sur une surface très lisse. Un coup de feutre bien opaque sur le QR code, donc le fameux petit carré. Et on nous précise bien qu'il ne faut pas oublier de masquer le numéro qui est écrit en dessous du QR code. Alors attention, Rebellion, comme nous d'ailleurs, n'appelle pas du tout à des actions illégales, mais précise que si ça ne vous semble quand même pas assez radical le coup de feutre, il est bien sûr possible, pas du tout conseillé, attention, entendons-nous bien, mais possible, de balancer la trottinette dans un 4x4, une vitrine de banque ou une permanence, La République En Marche par exemple. Et l'article ne s'attarde pas sur ce débat que j'ai déjà entendu et réentendu, de savoir si c'est bien ou pas bien de les balancer dans le Rhône, puisque effectivement, ça, à chaque fois qu'une trottinette finit dans le Rhône, ça nous en débarrasse d'une manière un petit peu radicale, mais en même temps, il semble que les substances contenues dans la batterie ne soient pas complètement idéales à balancer dans l'eau courante. Enfin, qui n'est pas non plus l'eau qui aboutit dans les robinets, mais quand même, c'est assez polluant, tout ça. À vous de voir, Rhône ou pas Rhône, en tout cas, c'est ça, c'est qu'au pire, et ça, c'est très extrêmement rapide et facile, on peut en faire 100 dans la journée sans problème, un petit coup de feutre, bim bim, et une trottinette bousillée, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle soit nettoyée, ce qui, normalement, prend au moins jusqu'au soir, et vraisemblablement, souvent un peu plus.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, tant qu'on en est à parler de sabotage, on va parler de la personne qui s'est auto-sabotée. Il s'agit de Salvini. Bon, on rigole pour l'instant, c'est possiblement que temporaire, bref, tout ça, c'est de la politique. Mais ça y est, le gouvernement italien a formé sa nouvelle coalition. Le parti 5 étoiles s'allie avec son ennemi, le parti social-démocrate, qui s'appelle le PD. Alliance que tout le monde qualifie de contre-nature, mais qui bien sûr a comme simple existence l'idée de contrer Salvini.
On se rappelle aussi que quand les 5 étoiles étaient arrivés au gouvernement et s'étaient alliés pour l'occasion avec la Ligue de Salvini, à l'époque tout le monde avait aussi qualifié l'alliance de contre-nature. On dirait que les 5 étoiles ne s'allient naturellement avec personne, mais s'allient finalement assez facilement avec tout le monde.
C'est ça. Salvini est donc écarté pour le moment du gouvernement, à voir pour combien de temps et surtout ce que fera celle qui lui succède au ministère de l'Intérieur, l'ex-préfète Luciana Lamborghese, qui est sans étiquette. Donc sans étiquette, souvent ça veut dire proche du mouvement Parti 5 étoiles, parce que c'est un peu ça leur existence. A priori, rien de bien fou à attendre de ce nouveau gouvernement, pour qui une partie d'entre eux, comme on le rappelait il y a une minute, a permis la montée en puissance de Salvini en s'alliant avec la Ligue du Nord, et qui ne cachait pas du tout, à l'époque, d'être à l'extrême droite de l'extrême droite européenne, ou je sais pas, un truc comme ça en tout cas. On verra donc très rapidement si la nouvelle ministre de l'Intérieur infléchira légèrement la position sur les migrants ou continuera sur la lignée de Salvini. Bon, en tout cas, moi, je fais le pari qu'il y a de fortes chances qu'elle assouplisse très, 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 très légèrement la position de l'Italie sur les blocages des bateaux à l'entrée de ses ports, ne serait-ce que pour se conformer à la loi et voilà, pour tout un tas de raisons, il semblait que ça, c'était quand même pas trop tenable dans le temps, mais qu'elle risque fortement de refuser tout accueil de migrants sur son territoire et de conditionner l'accueil des bateaux à ce que tous les autres pays européens prennent les personnes secourues. un truc comme ça à peu près risque d'émerger quand même. Dans les dossiers qu'elle aura à gérer, tout de suite, là, maintenant, c'est le blocage, oui, parmi d'autres, hein, mais il y a le blocage récent des avions de reconnaissance, que ce soit le Moonbird, qui est un avion de reconnaissance qui fait partie de l'ONG Sea-Watch, ou le Colibri, qui fait partie de l'ONG Pilote Volontaire. C'était les deux seuls avions qui parcouraient la zone de recherche des bateaux qui finissent échoués en Méditerranée. Tous deux sont cloués au sol pour des prétendues histoires d'autorisation administrative depuis au moins le 30 juillet pour le Colibri. Pour cet avion, par exemple, on leur reproche de ne pas avoir le bon titre d'avion pour ce genre de mission. Les autorités jurent sur le fait que ce type d'avion est utilisé normalement seulement pour le loisir et pas pour des missions de sauvetage ou de recherche. Bon, sauf que le Colibri a plus de 80 missions à son compteur et qu'on lui a jamais rien dit jusqu'avant. Un des pilotes de l'avion se dit toutefois pas très surpris de cette décision. Cela faisait un moment que les autorités cherchaient la petite bête sur leur avion. Leur but n'étant pas de gagner devant un tribunal, mais de gagner du temps et d'en faire perdre aux ONG avec des tonnes de procédures. Pour eux, c'est tout bénef dans tous les cas. Un avion cloué au sol, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est un avion qui n'indique pas où précisément effectuer les sauvetages aux bateaux des ONG. Pour ce qui est des bateaux, justement. Alors, les trois navires, d'ONG étaient bloqués à l'entrée de port italien lundi, au moins, avec à leur bord plusieurs centaines de personnes secourues. En gros, lundi après-midi, le capitaine d'Eleonore de l'ONG Lifeline a mis à son bord une centaine de rescapés, a décidé de forcer l'interdiction d'accoster en Italie, comme l'avait fait la capitaine du Sea-Watch 3 il y a quelques mois. Lui était bloqué depuis 8 jours et la vie de certaines personnes était en jeu. La situation à bord se dégradait grandement. Bref, il a dit que comme ça a déjà été fait, en fait, tant pis, on risque ce qu'on risque. Mais on va quand même débarquer. Le Marigiano, qui lui aussi s'était vu bloqué à l'entrée du port, a pu débarquer au fur et à mesure les personnes les plus en détresse qu'il avait à son bord. En gros, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui se trouvaient entre la vie et la mort, et ben là, les autorités italiennes venaient chercher seulement ces personnes et les ramenaient au port, attendant que d'autres se finissent dans la même situation. L'article que j'ai lu ne dit pas où est-ce qu'il en est, en tout cas le Marigiano pour l'instant. Et l'Alan Kurdi, lui, qui s'était vu signifier également l'interdiction de débarquer, lui se dirige vers Malte en disant bon bah peut-être que j'aurai plus de chance sur le port à côté. Voilà où on en est de la Méditerranée et des ports de l'Europe.
Plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté hier à Alger contre la tenue d'une élection présidentielle qui avait été annoncée la veille, réclamée, annoncée, on va revenir là-dessus, par le chef d'état-major de l'armée algérienne. Pas de vote, ont scandé les étudiants, accompagnés d'enseignants et de simples citoyens pour cette manifestation qui se tient pour la 28e semaine consécutive. Le président par intérim de l'Algérie, Abdelkader Ben Salah, et le Premier ministre Nourdine Bédoui doivent dégager, d'après les manifestants. Et voilà, c'est ce qu'il disait hier. Pas d'élection avec les bandes de mafieux, ont-ils aussi crié. Et du coup, ces étudiants et étudiantes protestaient contre l'annonce qui a été faite lundi par le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Alors on sait que depuis la démission le 2 avril dernier du président Bouteflika, dit la momie, c'est Gaïd Salah qui détient la réalité du pouvoir. Le président par intérim et le premier ministre, bon alors eux-mêmes de croutons du régime, sont des proches de l'ancien président et globalement ils obéissent à ce fameux chef d'état-major. Celui-ci donc a annoncé lundi avant-hier que le décret de convocation à l'élection présidentielle serait publié le 15 septembre, ce qui légalement veut dire que l'élection aurait lieu le 15 décembre, 3 mois après pile poil. Cette élection qui serait très rapide pour le coup, elle signifie surtout que la principale demande des manifestantes et manifestants depuis le printemps serait tout simplement ignorée. Cette demande, c'est bien d'établir d'abord une nouvelle constitution avant de procéder à quelque élection que ce soit. Le problème des Algériens et des Algériennes, c'était pas tant le président, qui était de toute façon plus tellement en état d'être nuisible, c'était surtout tout le système qui l'entourait et qui le soutenait. Aujourd'hui, ce problème reste entier. L'autre enjeu de faire des élections très vite comme ça, c'est aussi qu'en fait, il n'y a aucun candidat, aucune candidate d'opposition qui soit crédible et qui ait la moindre chance d'arriver à quoi que ce soit. Le journaliste algérien Khaled Drareni explique à, je sais plus, à RFI, je crois que j'ai trouvé ça là-dessus, qu'une élection rapide est une élection qui va certainement voir un homme du sérail prendre la présidence. Une élection qui se fait en 90 jours, c'est pas une élection qui verra une nouvelle tête se porter candidat et une nouvelle tête qui peut-être pourrait gagner le scrutin présidentiel. Le mouvement a réussi pour le moment à être très collectif, le mouvement qui a amené Bouteflika à démissionner. Voilà. Mais le fait qu'il reste très collectif, ça fait qu'il n'a pas fait émerger de personnalité qui pourrait se présenter ou qui pourrait représenter le mouvement. Et donc ça, c'est tout l'enjeu pour Gaïd Salah. Et l'assurance, sans même avoir à tricher beaucoup, de faire élire un vieux routard du pouvoir, quelqu'un qui connaît depuis toujours, alors que ça soit quelqu'un du FN ou du FLN ou que ça soit quelqu'un d'autre parti, mais en tout cas quelqu'un qui est dans la politique depuis tout le temps, et du coup que Gaïd Salah pourra contrôler comme il voudra, quoi. Et ce contrôle du chef de l'armée, on dirait bien que ça c'est un autre truc qui énerve les gens qui descendent dans la rue. Khaled Drareni, le gars que je viens de citer, il nous dit aussi ceci: le chef d'état-major a appelé à convoquer le corps électoral. Donc c'est pas le président qui a dit ça, c'est bien le chef d'état-major, c'est-à-dire le chef de l'armée, quoi. Pas une autorité civile, pas une autorité élue. C'est lui qui a donné la date à laquelle il voulait des élections. Et Drareni continue: c'est déjà une première dans les annales que le chef de l'armée demande à convoquer le corps électoral, puisque demander la convocation et la convocation elle-même, ce sont évidemment les prérogatives du président, et en l'occurrence, puisque le président a démissionné, du chef d'État intérimaire. Donc Abdelkader Ben Salah. Donc c'est une ingérence flagrante dans les affaires politiques du pays. Mais en fait, on la remarque même à peine, puisque, alors voilà, lui continue en disant: on savait que l'armée dirigeait les choses, mais elle s'en cachait. Aujourd'hui, elle ne s'en cache tout simplement plus. Gaïd Salah n'hésite pas à venir à la télé et à dire ce qui va se passer et comment ça va se passer. Autant dire que, a priori, ça sent pas bon. Mais voilà, on est toujours en Algérie dans ce rapport de force entre, d'un côté, les manifestantes et les manifestants qui réclament pas un changement de tête, mais qui réclament vraiment un changement de système et une nouvelle manière de gouverner. Et d'un autre côté, les vieux de la vieille du FLN et du pouvoir et de l'armée, mais donc maintenant en particulier de l'armée, qui veulent absolument pas lâcher le pouvoir, quoi. Voilà, les étudiants se sont rassemblés hier sur la place des Martyrs, vaste esplanade en contrebas du quartier de la Casbah, avant de défiler jusqu'à la Grande Poste, bâtiment emblématique de la contestation qui agite l'Algérie depuis le mois de février à Alger et dans plusieurs autres villes du pays. Selon les médias et les réseaux sociaux, ils ont également réclamé, et on y vient, un état civil, pas un état militaire.
Et alors, ce Canu Info touche à sa fin. On peut rappeler. Ah, c'est une petite.
C'est une petite demi-heure. Hein.
Alors, pour l'agenda, qui fait écho à la première nouvelle, samedi 7 septembre à quelle heure ils disent pas dans l'article, en tout cas à 14h devant la métropole au 20 rue du Lac, dans le 3e, aura lieu une manifestation contre l'expulsion de l'Amphiz, qui après plus d'une vingtaine de mois d'occupation et de près de 2 ans de lutte, est aujourd'hui menacé d'expulsion. Voilà, on a le nombre de temps d'existence. Voilà, en tout cas, il se passera... Qu'est-ce qui se passe aussi ? Eh ben, il y a, y a le risque de voir émerger un espèce de méga structure d'Amazon dans la région. Oui, je te vois faire la grimace, c'est pas une bonne nouvelle en général. Et on en avait parlé il y a quelques mois déjà, ils avaient prévenu, ne vous emballez pas non plus sur le, enfin je veux dire le patron d'Amazon, il a dit ce sera pas non plus un, il y aura des emplois mais ce sera pas non plus un truc de fou parce que le but c'est de foutre du robot dedans. Donc voilà, au moins ce qui est pratique.
Ah bon, tout va bien alors.
Bon, ouais. En tout cas, ça, ça leur coupe un argument. Parce qu'il y en aura quand même un peu. Ça leur coupe un peu l'argument pour les autorités de dire ah, mais si, mais regardez, ça a créé de l'emploi, c'est hyper bien, les gens ont vachement envie de travailler là-dedans. Voilà, bah, en tout cas, les gens n'y travailleront pas ou peu, en tout cas, mal, c'est sûr. Voilà, donc plusieurs rencontres pour s'organiser, en parler, auront lieu. La première, c'est vendredi 6 septembre à 19h à la Maison de l'écologie dans le premier arrondissement avec Alma Dufour, chargée de campagne aux Amis de la Terre et engagée contre Amazon. Ensuite, le vendredi... Bah non, mais ils ont pas pu faire... Alors, j'espère qu'il y a une erreur de date, ou alors ils ont dit qu'il y a deux rendez-vous concurrents. Hein. Alors, voilà. Le vendredi 6 septembre, aussi, à la librairie La Griffe, rencontre avec David Gaborio, sociologue du travail enquêtant sur les entrepôts logistiques. Voilà. Ensuite, aura aussi lieu le samedi 7 septembre, à 16h, au court-circuit dans le 7e, table ronde avec Alma Dufour et David Gaborio. Ah, ils se retrouvent. Et les Gilets jaunes de Lyon Centre. Voilà, donc ça, c'est le samedi. Alors, en gros, on résume. Le lundi, bah, vous choisissez votre camp. S'il y a un camp, on ne sait pas. En tout cas, c'est soit dans le premier, soit dans le septième. Hein, voilà. Et j'imagine, vu la sociologie de notre auditoire, il y a des chances que vous vous situez plutôt entre ces deux arrondissements. Et sinon, après, le samedi, bah, c'est tous ensemble au court-circuit. Voilà.
Et toutes tes informations, tu es en train de
les pomper complètement sur rebellion.info. Voilà, il y a un article qui est hyper bien fait que je suis en train de lire. Voilà, et sinon, bah, les dernières nouvelles hein, qu'on a pu voir sur un autre site beaucoup plus pourri que rebellion.info. Mais concernant l'expulsion, c'est que là, les personnes se sont réfugiées sur le point le plus haut du toit au niveau de la clinique qui est occupée à Vaux-en-Velin. Voilà, ils ont, avec une petite échelle, comme ça on voit sur la photo, qu'ils ont pris eux-mêmes pour pas que les flics qui entourent ce point le plus haut puissent monter. Voilà, en tout cas, ils sont entassés sur un tout petit endroit. Bref, bon courage à eux. On espère que tout ça finira pas trop mal. Voilà, ah ben on a presque réussi à durer jusqu'à 30.
Tenir à demi-heure, mais pas tout à fait. Alors on va vous laisser avec au moins une demi-heure de musique automatique.
C'est ça. Il est trop tôt pour savoir si Des Noirs prend la suite ou pas, parce qu'ils sont pas arrivés, mais en même temps...
C'est ça.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine.
Et d'ici là, n'hésitez pas à écouter les autres Canu Info tous les soirs de la semaine de 19h à 20h. Ciao.
Ciao, ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.